Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Lundi, 30 mai, bonne journée et bienvenue au 98.5. Une journée chaude, humide, avec possiblement un peu de pluie. Surtout ce matin, je dirais des quantités négligeables quand même. Alors, on prévoit 28 comme maximum avec l'humidex à 32. Et le potentiel d'averse est à 40 %. Ce soir et cette nuit, nuageux, un dégagement au cours de la nuit. Demain, c'est la plus belle journée là, de la semaine avec 22 degrés. Avec du soleil. Et après ça, un épisode jusqu'à vendredi de pluie, température plus fraîche. Encore là, pas des quantités importantes, mais 17 mercredi comme maximum. Jeudi, on prévoit 19 et vendredi, 21 degrés. On va aller voir la situation en Ukraine dans deux instants, mais je dois dire ce matin, je viens d'entendre évidemment l'intervention de Bénédicte. Cette violence faite à des enfants, il n'y a pas de mots pour décrire les sentiments qu'on peut avoir. Puis qu'est-ce que je vous dis, ça vient me chercher, ces affaires-là. Il y a aussi l'histoire de cette petite fille qui a été échappée par le système. On va en parler avec Katia Gagnon ce matin. Puis encore là, il faut arrêter de tout prendre personnel. C'est un constat qui est fait d'un système qui a échappé à un enfant. Et un enfant, là, quand je dis le système, c'est pas que la DPJ, c'est aussi le système de santé, c'est-à-dire les psychiatres qui ont été impliqués dans le dossier. Puis je vais vous parler également de l'appel lancé par des parents pour le retour du programme Un appel, un rendez-vous, qui permettait à des parents d'obtenir en 24-48 heures, 7 jours par semaine, un rendez-vous. Pourquoi? Parce que les urgences pédiatriques Sainte-Justine, Children sont débordées. Et là, ça permettait d'avoir accès à un professionnel de la santé, à un doc pour l'enfant. Et Québec a décidé d'annuler le programme, en catimini. Il y a quelques mois, on a fait une entrevue avec un des responsables pour expliquer à quel point le programme fonctionne, je devrais dire fonctionnait, que c'était efficace et que les parents étaient satisfaits. Lettre ouverte dans la presse en fin de semaine, je vais y revenir. Mais quand j'entends, à Québec, là, le patient est au cœur d'une priorité, là, c'est de la frime. Je vous le dis, je suis mêlé entre le cynisme et la volée de bois vert. Parce que je ne comprends pas, puis c'est encore pire, les arguments qu'on nous a servis hier. Je vais les partager avec vous tantôt. Mais d'abord, on va regarder la situation en Ukraine. Quand même un bon nombre de développements. Vous dire d'abord ce matin qu'il y a ce sommet important en Europe, un sommet de deux jours à Bruxelles, où les leaders européens sont réunis. On prévoit notamment des sanctions qui vont s'ajouter contre la Russie. Entre autres, on va peaufiner l'embargo sur le pétrole et le président Zelensky qui demande également des armes plus puissantes. Tetiana Ogarkova est avec nous. On lui a parlé plus tôt ce matin pour décrire justement la situation dans le Donbass, qui est la région convoitée par les Russes.
Oui, tout à fait. La situation sur le Donbass reste extrêmement compliquée pour l'armée ukrainienne, mais aussi pour l'armée russe. Aujourd'hui, il y a des combats déjà dans les banlieues de Severodonetsk, la ville qui est la capitale inofficielle de la région de Lugansk depuis 2014. Donc, l'armée russe a réussi de prendre des banlieues, c'est-à-dire il y a un endroit exact, un hôtel, qui sert aujourd'hui de la base militaire pour l'armée russe. Les combats sont très lourds, ils continuent. En même temps, il y a le combat pour la route entre Severodonetsk et Lysychansk et Bakhmout continue, donc avec les allées et les retours pour les deux côtés. Il y a beaucoup de pertes pour l'armée ukrainienne, mais aussi pour l'armée russe. Hier, nous avons atteint le chiffre de 30 000 30 000 soldats russes qui ont déjà perdu leur vie en Ukraine durant cette guerre. La situation est aussi compliquée dans la région de Bakhmout, c'est la région de Donetsk. Il y a des attaques qui sont là incessantes, qui continuent malheureusement. Donc d'ici une semaine, deux semaines, on verra le résultat de cette bataille, puisque on espère l'épuisement en fait de potentiel d'attaque de l'armée russe, parce que les pertes, une fois de plus, sont très graves.
Maintenant, pour une des rares fois, le président Zelensky a quitté la capitale. Il s'est rendu dans le nord-est du pays.
Oui, tout à fait. Hier, président Zelensky s'est rendu dans la région de Kharkiv et dans la ville de Kharkiv. C'est bien la première fois que le président ukrainien quitte la capitale depuis Kiev et se déplace. Il se déplaçait à l'ouest. Je rappelle que la région de Kharkiv n'est pas malheureusement libérée complètement par l'armée ukrainienne. À peu près 30% de la région sont encore occupées par l'armée russe. Volodymyr Zelensky a bien visité la ville. Il a aussi limogé le chef de service de sécurité de Kharkiv pour justement en accusant de ne pas suffisamment défendre la région dans les premiers jours de l'attaque russe. Il a aussi visité le front, même la ligne zéro, en fait, les soldats qui sont justement dans les tranchées et qui continuent leur contre-attaque et contre-offensive ukrainienne pour leur soutenir le moral. Donc, c'est une visite qui a démontré, en fait, aussi qu'il y avait cette dimension de la communication, de montrer que le président de l'Ukraine n'a pas peur de se déplacer justement dans la zone de combat. Je rappelle que la situation à Kharkiv reste malheureusement dramatique, puisque même si l'armée russe est déjà éloignée de la ville de Kharkiv, les frappes par missile et aussi par artillerie de longue distance continuent. Dans la fin de la semaine dernière, il y avait des frappes où même les enfants ont perdu leur vie. Le bébé de 5 mois avec son père et sa mère gravement blessée, et un enfant de 9 ans aussi ont perdu leur vie dans les rues de Kharkiv, même si la majorité des habitants de la ville reviennent. On constate que le métro à Kharkiv fonctionne et la vie commence à revenir dans cette ville largement touchée, largement détruite par Kharkiv, bien sûr, suite à l'attaque russe.
Voilà, c'était Tetiana Ogarkova, qui est journaliste, qui nous parlait donc en direct de l'Ukraine un peu plus tôt ce matin. J'ajoute également que des réfugiés ukrainiens, environ 300, principalement des femmes, des enfants, des personnes âgées, sont arrivés à Montréal, donc qui ont été pris en charge par les autorités, mais par la communauté. Je pense que c'est ça qui est important aussi de souligner. Des proches, des membres de leur famille. Ils vont séjourner pendant quelques jours dans un hôtel et on verra pour la suite des choses. Certains vont rester au Québec. Pour combien de temps, c'est à voir. D'autres vont retrouver des membres de famille qui se trouvent dans d'autres villes canadiennes. On sait que la communauté ukrainienne est quand même importante, bien implantée au Canada. Et ce sont tous des gens, on les a vus à l'aéroport, qui se disent soulagés d'avoir quitté, inquiets en même temps parce qu'ils ont encore des proches qui sont là-bas. Et on le voit dans plusieurs coins du pays. Cette guerre affreuse continue. Puis on fera le bilan avec Jean-François Lépine un petit peu plus tard dans l'émission. Bon, on va parler de notre merveilleux système de santé encore une fois. J'ai vu cette lettre en fin de semaine ouverte de parents qui demandaient le retour du programme Un appel, un rendez-vous. C'est un programme qui a été mis en place l'automne dernier et qui permettait donc d'obtenir un rendez-vous rapide, 24-48 heures, avec un numéro de téléphone pour le Grand Montréal, puis normalement, c'était pas loin de chez vous. Et on le sait tous que c'est un casse-tête pour les parents d'avoir accès à un médecin. La preuve, 45 000 rendez-vous ont été pris entre septembre l'an dernier et le mois de mars cette année. Pourquoi ça s'arrête au mois de mars? Parce que quelqu'un de génial au ministère de la Santé a décidé d'arrêter le programme. Là, on s'est posé la question quand on a vu la lettre. T'es pas au courant? On a fait une entrevue il y a quelques mois qui mettait en lumière les bons coups du système. Tu sais, pour une fois qu'il y a une patente qui marche dans le système de santé, il y a un génie qui a décidé d'arrêter ça. Alors, on s'est dit, mais pourquoi? Peut-on parler à quelqu'un? Bien sûr que non. Personne n'est disponible. Quand ils font une connerie, ça se pousse en courant. Alors, ils nous ont écrit, puis je veux partager avec vous le message du Fonfon, là, le porteur de valise qui nous a écrit. Il a dit que le but était de soulager la pression sur le système pédiatrique, qui était déjà en surcapacité. Pendant plusieurs semaines, les départements de l'urgence de Montréal pour enfants et de Sainte-Justine ont été extrêmement occupés, avec une clientèle dite non-urgente, ce qui amenait des longues attentes pour les familles et l'épuisement du personnel médical. Tu sais, ça arrive juste de façon occasionnelle, ça, dans les hôpitaux, le monde fatigué, puis des attentes pour des cas non urgents. Alors, écoutez bien l'argumentaire. Maintenant que les Montréalais tournent la page peu à peu sur la pandémie et que certaines mesures sanitaires ont été levées, le service a cessé d'être offert au mois de mars, fin mars. Les parents peuvent communiquer avec leur médecin de famille, toujours simple, ou les cliniques locales par téléphone, ou encore par rendez-vous santé, ou encore appeler Info Santé 811 pour une consultation téléphonique non urgente. C'est ce qui existait avant, ce qui faisait grincer des parents. Le ministre Christian Dubé nous explique qu'il va avoir un guichet d'accès première ligne qui n'est pas encore en place. C'est supposé commencer, on est supposé améliorer le système. Et là, on nous sort évidemment que les hôpitaux travaillent étroitement avec les cliniques médicales pour optimiser les plages horaires, la prise de rendez-vous. Mansac, comprenez-vous? Mansac. Je trouve ça, encore une fois, la preuve que le slogan « Le patient est au cœur des priorités », c'est de la frime. Ça marche, c'est efficace, 45 000 rendez-vous en même pas un an, et on décide de flusher ça. Alors, comprenez-vous là que c'est difficile à comprendre. Puis c'est pas une affaire qui doit coûter une fortune en plus, là. Mais il y a quelqu'un qui dit « Hey, ça marche ». Plutôt que de prendre ça comme un exemple et l'implanter partout, on décide d'abolir ça. Et cette réalité de parents qui se confrontent à des difficultés d'obtenir des rendez-vous, puis là, je peux ajouter les adultes, mais on me concentrer ce matin sur les enfants, là, à Montréal, ça demeure évidemment du blabla puis du vent, tant que les choses ne changeront pas concrètement. Alors, pourquoi ne pas attendre que le fameux guichet fonctionne? Pour vrai, ils ont retiré ça en douce, en se cachant, pas faire trop de bruit. Puis ces parents-là, évidemment, ne comprennent pas pourquoi. Pour des cas de rendez-vous non urgents. On va aussi revenir avec Katia Gagnon ce matin de la presse sur ce dossier publié en fin de semaine. D'ailleurs, la mère adoptive publie une lettre qui attaque le système et surtout l'incapacité de pouvoir faire des analyses, prendre des mesures, donc faire des enquêtes sur les décisions prises par la DPJ, par les intervenants. Pour les gens qui n'ont pas lu ça en fin de semaine, le titre c'était « La petite enfant sauvage ». C'est comparable à l'affaire de Granby, sauf que l'enfant a survécu. C'est un enfant qui s'est retrouvé avec des parents, on va être poli ce matin, inadéquats, des parents négligents. Cet enfant-là a été non seulement négligé, mais maltraité. D'ailleurs, on comprend pas trop pourquoi la police n'a pas été impliquée dans le dossier, hein. Mais en plus, on a retiré l'enfant du milieu, on l'a donné à la grand-mère. La grand-mère a retourné ça, tu sais. On parle ici d'une chaloupe là, qui s'en va tout croche. Et semble-t-il que les suivis, donc, n'ont pas été faits. Puis que cet enfant-là a développé des retards importants, majeurs. On a repris l'enfant, puis là, il y a des psys qui se sont mêlés de ça. Puis là, je vais résumer, Katia va être avec nous tantôt, mais en gros, c'est un enfant qui est tombé dans une famille complètement dysfonctionnelle, toxique. Cet enfant-là a été signalé à la DPJ. Le suivi n'a pas été adéquat. Il y a eu de la négligence. Son état s'est détérioré. Il y a un psy qui a dit que trouble avait été identifié puis qu'un centre de réadaptation ferait l'affaire. Puis tout le monde qui regarde ça, là, il y a 1000 pages de documents, disent que cet enfant-là a été échappé par le système et par les psys. Quand tu regardes ça, et cet enfant-là a une mère donc adoptive, j'ai fait une entrevue avec elle, à un moment donné, elle a pris l'enfant, puis la DPJ là, s'en est occupée. L'enfant est retourné avec la mère. C'est une mère qui est impliquée. Elle a vu le bien de cet enfant-là, puis c'est un enfant qui avait des problèmes. Il y a plusieurs qui ont levé le nez sur l'enfant en disant « c'est un paquet de troubles, elle parle pas. Problème d'attachement, de violence, elle se désorganise. » Mais cette femme-là a décidé de la prendre sous son aile. Donc, c'est une réflexion pour éviter justement. Puis encore là, l'idée, c'est pas de blâmer. On comprend que les gens sont débordés, on comprend. Mais quand on échappe des cas, faut qu'on soit capable de se le dire, puis il faut être capable aussi de voir c'est quoi les correctifs. qui peuvent être apportées. Je reviendrai aussi sur la fusillade aux États-Unis, le président Biden qui s'est rendu hier au Texas. Mais je vais retenir une chose ce matin. En fait, deux. La première, il y aura une enquête fédérale sur le travail des policiers. On a vu ce qui s'en venait vendredi puis qui a été confirmé, là. C'est-à-dire que c'est le chef de police scolaire qui avait comme le contrôle des opérations, puis qui a dit « Vous entrez pas, c'est un homme barricadé, c'est pas un tireur actif. » Or, les appels au 911 montrent qu'il y avait des enfants qui se sentaient menacés à l'intérieur, qui étaient paniqués, puis aussi que des coups de feu étaient entendus. Donc, on était en présence d'un tireur actif. Et la police, qui chapeau, dit « Ben, erreur grave de jugement. » Donc, enquête fédérale. Est-ce qu'on aurait pu sauver des enfants? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris la décision d'entrer? C'est ça la grande question. Puis l'autre chose, c'est la facilité avec laquelle on peut acheter des armes. On le sait, là. Le Journal de Montréal en fait la démonstration. En 15 minutes, il y a une journaliste qui a pu acheter comme ça une arme à feu. Puis en fin de semaine, le fabricant de l'arme qui a servi au tueur au Texas est connu pour faire de la pub, disons, agressive sur le web, avec des personnages de Star Wars, le Père Noël, il rend ça beau, les armes à feu, puis essaie, on parle d'AR-15, là, puis essaie de trouver un côté glamour à ça. Et c'est ça, sa stratégie. Et non seulement c'est de la pub, mais aussi c'est d'offrir sur Amazon, tu commandes ça en ligne, là, des formules de paiement, si t'as pas les moyens, puis des concours où on te donne des munitions. Fait que là, on n'est pas juste là dans « je fabrique des armes ». Je m'assure évidemment qu'il y en ait le plus qui circule. On va regarder aussi la situation ce matin chez Urgence Santé, un autre week-end difficile, grosso modo 45-50% des ambulances qui ne sont pas disponibles la nuit, la fin de semaine. Le PDG, qui est nouveau, sera avec nous. Et puis on reviendra sur le week-end politique. C'est pas bien compliqué ce qui s'est passé en 20 semaines. D'abord, la CAQ. Alors, c'est un rassemblement d'amour en fin de semaine. Les sondages montrent que la CAQ s'en va vers une victoire et M. Legault a joué ses cartes. La carte de la stabilité. C'est pas le temps d'aller vers des partis extrémistes. Gauche, droite. Faut rester au centre. Rappelez Robert Bourassa. La stabilité, la création d'emplois, l'économie. Après cette période difficile de pandémie puis d'ajustement, votons pour la stabilité. Deux, votons pour protéger le français au Québec, évitons que le Québec, dit-il, devienne la Louisiane. Et puis finalement, il veut un mandat clair. D'une façon de parler, là, quand on regarde les sondages, il veut-tu avoir 97, 100, 102 députés? Mais bref, un mandat pour chercher les pouvoirs en matière d'immigration, parce que, dit-il, on va devenir comme la Louisiane. Fait qu'on comprend que sa campagne électorale va être basée sur la stabilité, l'identité, la langue. C'est beaucoup vers ça qui s'en va. Du côté de Québec solidaire, il y a eu des chicanes internes. Eux autres sont toujours pareils. Vous remarquez? Sur des questions des signes religieux, ils tentent une position officielle de Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois, puis oups, le parti bascule. Non, finalement, on n'est pas à l'aise, pas ce qu'on dit. Arrive la question linguistique, on appuie, mais on n'est pas tout à fait d'accord. Puis bref, il y a des chicanes puis des malaises. C'est un parti qui est assez tiraillé. Puis là, on n'a pas de chef, on a des porte-paroles. Fait qu'eux autres, ils font juste comme répéter la position officielle du parti. Et là, le bonbon de Québec solidaire, puis y a-t-il quelqu'un qui peut être contre ça dans la vie? 4 semaines de vacances. Et ça me semble que c'est normal. Puis c'est pas tout le monde que ça. Puis quand on l'a, ça prend des fois un certain temps. C'est 2 semaines, puis 3 semaines. Puis après quelques années, tu finis par avoir 4 semaines. Mais 4 semaines, là, c'est pas beaucoup. C'est pas énorme. Alors, c'est l'engagement. Au Parti québécois, le message est clair. On va essayer de ne pas disparaître, mais en même temps, on va garder nos idées, nos principes. On croit à quelque chose, qui est l'indépendance. C'est pas tendance, là, c'est pas bébé la mode, mais il faut garder nos idées. Puis le Parti libéral nous a montré un nouveau logo en fin de semaine. Et avec Jonathan, on va vous parler de ça, évidemment, tantôt.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Je vous racontais ce matin la triste histoire d'un enfant qui a été échappé par la DPJ, par les psychiatres aussi, par le système de santé, donc des failles importantes. Elle a vécu une histoire d'horreur, des parents irresponsables, voire même négligents, pour ne pas dire autre chose. Et elle s'est beaucoup promenée. Elle a été adoptée par une femme, évidemment on protège les identités, qui a été confrontée à un enfant là, qui avait de graves, graves, graves séquelles de toute cette négligence. Je l'ai donc interviewée et vous allez entendre un peu le résumé de l'entrevue. Puis la première question était toute simple, comment cet enfant-là est entré dans votre vie?
Donc c'est ça, moi j'ai connu ma fille, elle avait 6 ans et demi. Elle est arrivée chez moi de façon assez rapide, là, que je pourrais dire. C'est que j'ai eu un appel de la DPJ me demandant si je voulais avoir un enfant du Québec parce que j'avais fait un processus à l'adoption internationale. Et on m'a proposé un enfant du Québec qui était dans le besoin et qui avait aucune famille au Québec qui ne pouvait la prendre. Ainsi que je crois qu'il y avait des fermetures aussi dans les foyers de groupe et tout ça. Là, il y avait des coupures à ce moment-là. Donc, ça a pris, je l'ai rencontré une couple de fois, un pique-nique, une petite marche, une petite visite au parc et elle est arrivée chez moi.
Elle était dans quel état quand elle est arrivée chez vous?
Elle était dans des conditions que je dirais, là, c'est presque au-delà de votre imagination. Là, j'avais jamais vu un enfant dans cet état-là de ma vie. Pourtant, j'ai côtoyé beaucoup d'enfants là, dans ma vie. Des enfants aussi qui étaient mal en point. Là, mais ma fille était complètement là, dans un état de retard développemental au niveau affectif, cognitif, physique. Elle sentait pas son corps, elle pouvait débouler les marches, se relevait debout, sentait pas son corps. Elle était beaucoup dans des moments de dissociation qu'on appelle, déconnectée avec la réalité, des gros retards de langage, des gros retards au plan de la motricité. Connaissait pas les concepts, tous les concepts de 0 à 5 ans, elle ne les avait pas acquis, et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont pas acquis encore aujourd'hui. Le concept de causalité, concept la ligne du temps, plein de choses comme ça, une maison, qu'est-ce que c'est une maison, les bruits environnants, elle savait pas les bruits d'oiseaux, les bruits d'une moto, c'est quoi ça maman, ben, au début elle m'appelait pas maman, là. Vraiment, là, c'était stupéfiant de voir là, l'état qu'elle était.
Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi elle avait autant de retard? Qu'est-ce qui lui est arrivé?
On m'avait dit que c'est un enfant qui avait subi beaucoup de négligence sur le plan éducationnel et aussi au niveau des retards là, développementaux parce qu'elle n'avait pas été stimulée, que c'est un enfant qui souffrait du trouble de l'attachement et une possibilité du spectre de l'autisme. Et avec un retard de langage et que c'était des conditions de vie sur le plan éducatif là, de négligence et de maltraitance.
Vous avez quand même décidé de la garder puis de vous en occuper.
Oui.
Pourquoi?
Parce que quand je l'ai vue, je sais qu'il y avait des familles qui l'avaient refusée. Excusez-moi, je ne m'entendais pas une question comme ça. Mais... Quand je l'ai vue, je me suis dit, si je la prends pas, qui va la prendre? Puis moi, ben, je vais m'occuper d'elle, puis je vais essayer de lui rendre une vie meilleure et d'être à ses besoins, répondre à ses besoins, puis de l'aider à s'épanouir, de l'aider à avoir une belle vie, de lui faire des apprentissages et donc être là pour elle.
Est-ce que vous avez été capable de fouiller sa vie avant qu'elle entre dans la vôtre, là. C'est-à-dire de savoir dans quel milieu elle s'est retrouvée, qu'est-ce qu'elle a eu comme mauvais traitement, quelle sorte de suivi on a fait dans son cas. Bref, avoir son historique. Est-ce que vous avez été capable d'avoir ces détails-là?
Non, parce que tout est confidentiel. Donc, on ne peut pas avoir ces détails-là. Et bon, je respectais ça. Moi, j'ai toujours cru que la DPJ, c'était des gens de bonne foi, là, et que c'est le fonctionnement et que ça doit être comme ça. J'avais des petites brides des fois qui sortaient, puis là je me disais, mon doux, c'est-tu exagéré, ça n'a pas de bon sens, des choses que je pouvais entendre. Mais moi j'étais dans le moment présent avec ma fille et j'allais toujours de l'avant avec elle, puis sa vie antérieure, tu sais, j'ai jamais eu de non plus de comment je pourrais dire, de rancune envers ses parents biologiques. Moi, j'étais là dans l'intérêt de ma fille pour qu'elle aille bien et pour aller de l'avant. Puis, ses progrès, là, j'étais vraiment impressionnée là, des progrès de ma fille. Donc, je m'attardais pas à du négatif puis au passé et tout. Là, j'étais vraiment dans le moment présent pour ma fille. Mais c'est vrai que j'avais entendu des brides, mais je ne pouvais pas m'imaginer jusqu'à quel point que ça pouvait nuire, que ça avait pu nuire à ma fille non plus. Là.
Qu'est-ce qu'elle a subi pendant toutes ces années-là que vous avez finalement pu découvrir?
Ben, ce qui est arrivé, c'est que j'avais entendu des choses à l'effet des choses de maltraitance là, assez graves. Là. Je ne sais pas si je peux en nommer, mais de violence. Des méthodes éducatives là, qui sortent de notre imagination, qu'on peut même pas penser que des gens peuvent faire ça. Ça venait de la part directement des intervenants de la DPJ qui s'étaient échappés un peu. Et aussi dans le milieu médical, une infirmière, entre autres, qu'à chaque fois que je la voyais, elle me disait des petites choses que ma fille, elle avait subies. Mais là, je me disais, mais voyons donc, ça se peut pas. Mais la chose qui est arrivée, c'est que moi, on m'avait promis. C'est que moi, avec tout ce que ma fille elle avait vécu, là, honnêtement, je pensais que c'est plate à dire. Ben, c'est pas que c'est plate à dire, mais je croyais qu'un tapis rouge aurait déroulé devant elle. C'est juste ça qu'elle méritait, d'avoir des soins et des services. Et puis qu'elle ait du soutien, du support, qu'on lui vienne en aide, là, tu sais, pour son développement. Et là, on était dans une spirale où on n'avait pas les soins, là. Donc, il a fallu que je fasse venir le dossier pour savoir c'est quoi son passé, là, c'est quoi qu'elle a vécu. Donc, comme tous les parents, j'ai eu à droit à l'accès à l'information et j'ai fait venir le dossier complet de la DPJ et aussi du milieu médical auquel elle avait été hospitalisée dans le passé. Et c'est là que j'ai vu l'horreur, les choses, qui corroboraient les dires que j'avais entendus ici et là un peu partout. Et là, je me disais, mon Dieu, ça fait pas de sens. Comment ça que ma fille, personne qui l'a protégée?
On comprend d'abord que ce sont des parents non seulement incompétents, mais dangereux pour l'enfant. On comprend aussi que cet enfant-là aurait pas dû se retrouver dans ce milieu-là, et surtout sans supervision réelle, et que, bref, pendant plusieurs mois, plusieurs années, on l'a comme échappé dans le système.
Exactement.
Deuxièmement, normalement, elle aurait dû obtenir, comme vous dites, des soins, des services. Elle n'a pas eu ça.
Elle n'a pas eu les soins et les services dont elle aurait dû avoir.
Et cet enfant-là a dépéri. Cet enfant-là a été victime de violence. Il n'y a jamais d'accusations qui ont été déposées contre les parents pour les gestes violents qu'ils ont posés.
Exactement.
Est-ce que j'oublie des choses?
Oui, ben c'est-à-dire les conséquences de ça,
oui.
De qu'est-ce que ça a fait. C'est que en ne divulguant pas aux autorités judiciaires les actes dont ma fille fut victime, ceci a fait en sorte que la DPJ a géré ça à son niveau sous la loi de la protection de la jeunesse et a minimisé les actes dont elle fut victime. Donc après ça, c'est que pour ça je parle de l'effet papillon, tout s'ensuit. Parce qu'on minimise les actes dont elle fut victime et on va apposer l'étiquette d'un trouble du comportement. Et là, les services viennent en fonction du trouble du comportement, non de ce qu'elle a vraiment vécu, du réel cas clinique de ma fille. S'il y avait eu une entente multisectorielle et qu'elle aurait été vue dans une clinique spécialisée de maltraitance, elle aurait été prise en charge correctement avec une clinique de retard développemental. Tous les soins, tout le monde serait mobilisé alentour d'elle pour lui donner les soins.
Les experts qui ont regardé votre dossier arrivent à peu près, à la même conclusion. C'est comme l'histoire de la petite fille de Granby. À la différence, c'est que votre fille, à vous, est encore vivante.
Oui. Puis ma fille, était dans un état tellement grave qu'elle n'était même pas scolarisée. Elle n'était pas scolarisable. Elle a commencé ses réels apprentissages, elle a commencé presque à l'âge de 11 ans, 10 ans, 11 ans. Ça vous donne une idée de l'état qu'elle était, là. Alors, on a essayé de la scolariser, puis elle n'était pas scolarisable.
Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez?
Moi, ce que je veux, c'est qu'on réponde aux besoins fondamentaux de ma fille. L'intérêt supérieur de l'enfant. Le gouvernement n'arrête pas de dire qu'on est dans l'intérêt de l'enfant, mais comme ma grand-mère disait, les bottines ne suivent pas les babines. Là. Je veux dire, ils ne sont pas conséquents avec ça. Il n'y a rien qui est fait dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est qui va leur dire à un moment donné qu'ils n'ont pas d'allure, là? C'est qui va leur dire? Parce que eux croient qu'ils ont la science infuse. Il n'y a aucun moyen de faire de quoi avec ce monde-là. Là. On ne peut pas dialoguer avec ces gens-là.
Est-ce que vous souhaitez que les parents biologiques fassent l'objet, à tout le moins, d'une enquête policière, puis éventuellement, si c'est le cas, d'accusation?
Si c'est le cas, oui. Mais moi, je veux connaître la vérité. Tout est camouflé, tout est caché. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que ma fille soit dans cette condition-là puis qu'on ne l'a pas protégée. Parce que tout ce qui s'est passé dans son enfance, ça aurait pu être évitable. Dès le premier signalement qui a été fait, il n'y a pas eu de suivi. Ça, ça aurait pu être évité. Après ça, les autres événements qui sont arrivés par la suite, ça aurait pu être évitable. Tout aurait pu être évitable. Pourquoi la DPJ n'a rien fait? Pourquoi la DPJ n'a pas protégé ma fille alors qu'elle était dans ces conditions-là? Puis c'est pas de la faute de la primauté parentale, là. Tout était là pour la retirer de son milieu, là. Tout était là, là.
On l'a échappé.
Oui, on l'a échappé. Puis après ça, devient une victime secondaire. La vie de la victimisation secondaire du système. Et ça s'arrête pas.
Elle a quel âge aujourd'hui?
Elle a 15 ans.
Comment elle va?
Elle va bien. Elle va bien. Parce qu'elle a subi d'autres traumatismes, là. Le placement dans un centre de réadaptation, c'était pas du tout adapté pour elle. On n'a pas répondu à ses besoins. Ça lui a occasionné des traumatismes supplémentaires. Puis ça, personne ne veut l'admettre. Elle était mise en isolement à chaque jour.
C'est un enfant brisé complètement.
Complètement. Puis on continue de la briser, puis taper dessus, puis on la punit parce qu'elle est brisée.
Mais là, votre fille, vous dites, est avec vous, qu'elle va mieux, oui. Que je comprends, là. Puis quelles sont les prochaines étapes pour elle?
Ben moi, je veux qu'elle soit scolarisée, là. On est au Québec. Écoutez, elle avait juste deux années de scolarisation primaire, puis la commission scolaire voulait l'envoyer à l'école secondaire avec un retard développemental, puis juste deux années de primaire. La loi sur l'instruction dit cinq années au primaire. Je veux dire, il n'y a personne qui sont dans l'intérêt des enfants. Le système de santé, la façon qu'il fonctionne, là, comme, ça n'existe pas des centres de crise pour des enfants maladie mentale. Automatiquement, systématiquement, un enfant qui est en crise pour la maladie mentale, il y a un signalement fait à la DPJ. Puis là, ben le signalement vient d'un psychiatre. Après ça, qu'est-ce qu'on fait pour se défaire de ça? Là, l'enfant, il est placé.
Je vous lance quelque chose. Est-ce que ça se peut? Il y a des jugements là, qui sont rendus puis dans lesquels on dit, bon, mais il faut que cet enfant-là ait accès à tel professionnel de la santé puis tel type de service. Que la volonté est de l'offrir, mais ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas le personnel requis pour faire ça. C'est pas de la mauvaise foi, mais ils n'ont pas le monde pour le faire.
C'est pas juste le monde, c'est la culture, la façon de faire. Il y a un dysfonctionnement dans le système. La DPJ, premièrement, là, c'est quoi l'âme de la DPJ? La DPJ sont là pour quoi? Là, ils sont là pour la protection de l'enfance. Hein? Donc, sous cette noble cause, on leur donne des super pouvoirs en pensant que c'est impossible des erreurs de jugement, que c'est impossible des gens de mauvaise foi. À partir du moment qu'on va responsabiliser la DPJ de ses actes, ben après ça, tout un système va mouvoir en entour d'elle. Donc, tout le monde va se responsabiliser. Puis la DPJ sera plus le fourre-tout d'une porte d'entrée pour avoir des services qu'on n'a pas, là.
Voilà, c'était la mère de cette adolescente maintenant, mère adoptive, un enfant qui a été échappé par le système. J'allais dire ça, mais c'est cette réalité. Et puis encore là, j'insiste. Il se fait de belles choses à la DPJ. Je reçois des courriels depuis ce matin en disant « Ouais, mais vous dites pas les bons coups. » Oui, on les dit les bons coups quand on les connaît. Mais quand ça marche pas, quand le système l'échappe, faut le dire aussi. Et la Commission des droits de la personne et de la jeunesse n'a pas l'air d'avoir beaucoup de temps pour s'occuper de la DPJ.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Bon, un week-end assez actif sur le plan politique avec le Parti québécois, avec Québec solidaire. Mais Jonathan, tu étais à Drummondville au ralliement de l'amour au sein de la CAQ.
Écoute, il y avait assez de tension là en fin de semaine, Paul.
Des angoisses sur le résultat de la prochaine élection.
Oui, des gens très, très, très inquiets. Non, écoute, c'était une démonstration de force assez impressionnante au niveau de l'organisation, au niveau de la mobilisation. Juste la salle en tant que telle, là, je sais que la mémoire est une faculté qui oublie, mais je me souviens pas d'avoir vu un aussi grand déploiement que ça. La grandeur de la scène, la hauteur des écrans, c'était assez impressionnant. Rien n'était laissé au hasard. C'était très, très bien organisé. Peut-être même un peu trop, j'ai envie de te dire, par moment. faut que je te raconte ce moment cocasse de la fin de semaine. Samedi après-midi, il y avait une idée que je trouvais intéressante. Ils ont fait monter sur la scène tous les membres du Conseil des ministres. Et il y avait une séance de questions d'à peu près une heure, quatre micros dans la salle, et les militants pouvaient aller au micro pour poser des questions à leurs ministres. Fait que là, on s'est dit, oh, ça va peut-être être intéressant. Il y a peut-être des gens qui vont avoir des questions un peu pointues. Sauf que là, le problème, c'est qu'après 7-8 questions, on s'est rendu compte que les gens avaient toutes des questions écrites sur un papier qui commençait à peu près tous par « De quelle réalisation êtes-vous le plus fier de votre bilan en culture, Mme Roy, en matière d'affaires internationales, Mme Giraud? »
On parle d'un hot seat, là.
Ben, c'était des questions plantées. C'était le parti qui avait écrit les questions de peur qu'il n'y ait pas de gens qui aillent au micro. Donc, c'est venu un peu diluer l'exercice. Mais bon, je peux dire qu'ils sont fiers. Ils sont très, très fiers. C'est ce que je retiens de ma fin de semaine. Ils sont fiers de leur bilan. Ils l'ont fait en long et en large. Et ils sont aussi très, très fiers d'être Québécois. Et j'attire ton attention là-dessus. On a eu le droit à une présentation du ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, sur le nationalisme, la fierté d'être Québécois. Et je me suis fait la réflexion suivante. Ce qui m'a impressionné, ce qui m'a frappé, en fait, c'est que c'est comme si les caquistes s'étaient approprié le fait d'être Québécois. Tu sais, moi, j'ai un passé de militant libéral. Dans les congrès du Parti libéral, on parlait de l'héritage libéral. On disait qu'on était fiers d'être des militants libéraux. Les péquistes sont fiers d'être des souverainistes. Les QS sont fiers d'être à gauche. Le Parti conservateur du Québec sont fiers de, je sais pas trop quoi, d'être contre les mesures sanitaires. Mais là, la CAQ sont rendus fiers d'être Québécois. Ce sont eux qui sont devenus les Québécois. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Et je me suis pris une note dans mon cahier en écoutant le discours d'André Lamontagne. Puis des fois, je me prends des notes comme ça, des réflexions, mais je laisse ça respirer un peu. Tu sais. Puis des fois, ça vieillit mal. Puis d'autres fois, ça me revient. Puis je te lis exactement la note que j'ai prise en écoutant André Lamontagne. Est-ce que c'est inévitable qu'un jour la CAQ va vouloir se séparer du Canada? Et je lis certains de mes collègues dans d'autres journaux ce matin, je me rends compte que je suis pas le seul qui en vient à cette question-là, à cette interrogation-là. Y a quelque chose de très, 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 très fort au niveau du sentiment du nationalisme de la CAQ. Je sais que c'est une coalition, je sais qu'il y a beaucoup de fédéralistes qui sont au sein de la CAQ, mais quand je regarde se profiler les enjeux des prochains mois, prochaines années, contestation de la loi 96, contestation de la loi 21, des demandes au niveau de l'immigration qui sont rejetées de facto, les transferts en santé qui vont être conditionnels, le fédéral qui veut s'immiscer dans les compétences du Québec, je me demande si à un moment donné, il ne pourrait pas y avoir une espèce de contexte qui ferait en sorte que la CAQ ramènerait cette option-là.
Legault n'a jamais dit que jamais. Là. Tu comprends? Moi, ce que j'entends du discours, c'est les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Fait que foutez-nous la paix avec la souveraineté et l'indépendance pour les prochaines années. Un. Deux, je l'écoutais son discours, là, faisait penser à Robert Bourassa un peu.
Exact.
Tu sais, le message, la stabilité, l'identité. Puis souvenons-nous de Meach. On a tous pensé que Robert Bourassa était devenu indépendantiste, ce qui n'était pas vrai. Tu sais, des fois, les messages, là, t'sais, méfiez-vous des extrêmes. Faites-nous confiance, ça va bien. On est stable, on va créer des jobs, puis on va protéger le français. C'est ça que ça veut dire. Puis on va faire une bataille sur l'immigration.
Et tu vois, justement, dans mes notes devant moi, j'ai écrit Bourassa aussi. Parce que je sais que, comme tu dis, c'est pas vrai que Robert Bourassa était sur le bord d'être souverainiste, mais il y a bien des gens qui pensent que celui qui aurait été le plus à même de réaliser la souveraineté, c'était Robert Bourassa. Dans un contexte particulier, avec un angle particulier, une capacité de mobiliser. Et François Legault, c'est sûr que demain matin, il nous dira pas qu'il va faire un référendum. Mais tout au long de la fin de semaine, il y a pas une fois où on a parlé de la fédération, de l'appartenance au Canada. Ce n'est pas du tout...
Non,
du
mais
tout,
c'est un parti nationaliste. Je veux dire, exact, on fait bien des jokes sur l'Union nationale, mais c'est ça pareil.
Il tolère le Canada. Et oui, je sais pas toi, mais moi, il y a des choses que je tolère dans la vie que finalement, je finis par plus être capable de sentir. Mais je change d'idée.
Non, mais tu sais, ça a l'air de... On va se battre pour notre butin. Tu sais, c'est ça le nationalisme qu'on voit s'exprimer. La CAQ, c'est une coalition. Oui, il y a des fédéralistes, probablement, mais des fédéralistes aussi assez nationalistes. Puis moi, je la vois comme ça. Entre-temps, parle-moi donc des partis d'opposition qui avaient comme message en fin de semaine. Youhou! C'est le fun de la CAQ, là, mais ça en va en prendre quelques-uns à l'Assemblée nationale, pareil, pour jouer le rôle de l'opposition.
Mais c'est quoi l'idée d'organiser son congrès la même fin de semaine que celui du gouvernement qui est en place? Ça se parle des fois des partis politiques. Hein? Quelle date tu fais ton conseil général ou ton congrès des membres et tout ça? C'est comme si le Québec solidaire et le Parti québécois avaient organisé leurs activités en catimini. Je parlais avec la directrice générale de la CAQ en fin de semaine. Elle était même pas au courant jusqu'à il y a quelques jours qu'eux faisaient leur conseil. Donc, ils sont dans une situation où ils ont besoin de visibilité. Ils disent toujours la CAQ qui fait parler d'elle, mais ils font leur congrès la même fin de semaine que la Coalition Avenir de Québec. Drôle d'idée, je pense. Commençons par Québec solidaire qui était réuni à Montréal. Je trouve que c'est un parti qui semble de plus en plus difficile à gérer. Encore une fois, Gabriel Nadeau-Dubois s'est fait rabrouer à cause de son appui à la loi 96. Pourtant, puis je t'en avais parlé, moi je trouve que c'est le parti d'opposition qui a eu la position la plus responsable par rapport au projet de loi 96, c'est-à-dire, oui, de dire qu'il y a des éléments qui ne faisaient pas leur affaire, de dire que dans un éventuel gouvernement de solidaire, il y aurait des changements qui seraient faits, mais en même temps, de ne pas laisser tout le champ libre à la CAQ, de dire, ben, regardons, on est les seuls qui voulons concrètement assurer la pérennité du français à court terme puis de poser des gestes. Je trouve qu'il y avait quelque chose d'habile. Ben là, il est obligé de modifier un peu sa position parce qu'il y a une frange plus radicale qui lui reproche d'avoir appuyé...
Mais
d'avoir
ça a été ça aussi sur les signes religieux.
Exactement.
Parce que le problème, c'est qu'on a des porte-parole. C'est pas un chef, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un porte-parole. Fait que lui, il dit une affaire, puis là, il s'en va devant ses bancs. Puis sur les questions nationales, identitaires, en tout cas, comme dirait l'autre, là, plus ou moins fiable, Québec solidaire.
Ben moi, je trouve qu'il est prisonnier de son parti. Il est carrément prisonnier de son parti, justement, parce qu'il n'y a pas de mainmise sur le parti, étant donné qu'il n'est pas le chef, ne peut pas imposer des choses. Donc, il doit essayer de naviguer au travers de ça. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est que tant que ce parti-là va tirer ses chefs comme ça vers le bas, ils sont condamnés essentiellement à rester autour de l'île de Montréal. Oui, peut-être certaines percées, comme on a vu en 2018, mais je ne vois pas Québec solidaire être capable d'élargir, si tu veux, sa base militante en ayant ce genre de réflexe.
Bon, puis le PQ, ben.
Écoute, je pense que je te l'ai déjà dit, mais je reviens avec la même réflexion. Je regarde ce qui émane du Congrès du Parti québécois, la mise en garde sur la Coalition Avenir Québec. Est-ce qu'on a besoin de 126 députés caquistes sur 125? Et vraiment, là, je constate que c'est l'appel au vote stratégique le plus hâtif que j'ai jamais vu. Tu sais, normalement, un vote stratégique, tu fais ça en campagne électorale, il reste deux semaines, puis tu dis, oh, mais là, faites attention.
Faut
si
bloquer
votez,
un tel ou...
Ben, c'est ça, c'est ouais. Un vote pour un tel équivaut à un vote pour un tel. Là, on est à 4 mois de l'élection, et ça fait déjà depuis l'élection dans Marie-Victorin que le Parti québécois nous dit, ouais, mais attention, là, nous autres, on a besoin d'être plus, pas eux autres. C'est comme un appel au vote stratégique qui fait un peu désespéré. Mais, et l'autre chose que je retiens, c'est que Yves-François Blanchet était de passage, le chef du Bloc québécois. Le frère d'Ottawa était de passage pour donner son appui à Paul Saint-Pierre Plamondon. Et ça me fait te souligner que à plusieurs reprises, on me demande, est-ce que Yves-François Blanchet pourrait être appelé à faire un deuxième sauvetage? Après avoir sauvé le Bloc québécois, est-ce qu'éventuellement c'est lui qui pourrait être appelé en renfort pour sauver le...
Tu veux dire se mêler de la campagne provinciale?
Ah non, mais moi, je suis... Écoute...
Ah, OK, toi, t'es rendu après, là. OK, on est rendu à la suite des choses.
Je sais, il reste une campagne.
Excuse-moi.
Non, mais le fait que je te dise ça, ça en dit long. Au même titre que quand je te parlais d'un seuil minimal de 20 députés pour Dominique Anglade, que déjà, ça se discute alors qu'on était à 4 mois d'élection, ça démontre que même dans les rangs de ces partis politiques-là, même au niveau des sympathisants de ces partis politiques-là, il y a bien des gens qui sont déjà en train de préparer l'après. Ça fait des semaines qu'il y a des gens qui disent « Hey, Yves-François Blanchet, je pense que c'est lui que ça va prendre. » Ou en tout cas, Yves-François Blanchet, lui, va pouvoir peut-être réussir à garder à flot le Parti québécois.
Puis François-Philippe Champagne chez les libéraux, tout le monde entend ça.
Oui, son nom revient souvent.
En parlant des libéraux, parce que le temps fait, bon, ils ont changé le logo.
Voilà.
C'est ça.
On peut arrêter là.
À demain.
Notre collègue Frédéric l'a dit. Moi, ce que je retiens du changement de logo, c'est vraiment la publication de notre collègue M.C. Gilles,
oui,
qui a vu un graphique des sondages avec la barre bleue à 46 et la barre rouge à 18%. Écoute, c'est un changement de logo. Ça change absolument rien. Il n'y a jamais un parti politique qui s'est relancé avec un logo, mais je vois qu'il y a des militants qui
c'est l'Union nationale était devenue Unité Québec à un moment. T'sais, ils changent de nom. Après ça, ils reviennent à l'ancien nom. Comme on dit, on pense que le branding va tout régler, là, mais...
C'est pas ça qui va tout changer.
Je pense pas. Bonne journée, à demain.
Salut.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Revenons sur la situation en Ukraine, mais en fait, nous allons parler de ces quelques 300 citoyens et citoyennes d'Ukraine qui sont arrivés à l'aéroport de Montréal, qui ont été accueillis. Ce sont des démarches qui ont été extrêmement longues. Avec nous, Cathy Smolinek, qui est la présidente de la Fédération nationale ukrainienne du Canada. Madame Smolinek, bonjour.
Bonjour.
D'abord, parlez-nous de l'accueil. Si vous aviez à résumer comment ça s'est passé hier à l'aéroport.
L'accueil était très bien organisé. Puis je veux avant tout remercier le ministère d'Immigration, Francisation et Intégration, puis toute l'équipe avec qui l'on travaillait. On sentait la chaleur de l'accueil, que vraiment c'était pas juste la bureaucratie officielle qui accueillait les Ukrainiens. Tout le monde était dédié à leur faire un bienvenu chaleureux, finalement. Alors, c'était bien organisé. Il y avait beaucoup d'Ukrainiens à la sortie de l'aéroport, mais à la barrière, en arrivant, tous les travailleurs, même les gardiens de sécurité, les agents de la frontière, étaient là pour applaudir et dire bienvenue aux arrivants.
Maintenant, qui sont-ils exactement? Ils sont partis d'où? On parle surtout quoi, de femmes, d'enfants, de personnes âgées?
Il y avait toutes sortes de gens. J'étais surpris qu'il y avait pas mal des hommes. C'est plus que la moitié étaient des femmes avec des enfants, mais il y avait aussi des hommes. Je ne peux pas vous donner des statistiques, mais je peux vous dire à qui j'ai parlé. La plupart étaient de l'est de l'Ukraine. Il y avait plusieurs qui venaient de Kharkiv, une ville qui est très bombardée dans l'est du pays. Il y avait quelques-uns qui étaient de Kiev, mais j'en ai pas parlé à personne de l'ouest du pays qui était un peu moins touché du reste. Il y a plusieurs qui viennent ici pour rejoindre la parenté, que ça soit des sœurs ou même des fois des enfants qui sont ici. Alors, c'est la réunification familiale qui se fait. Et il y a d'autres qui commencent une nouvelle vie chez nous.
Maintenant, parlez-nous un peu de ce qui va se passer avec ces 300 personnes. Quelles sont les prochaines étapes? Ils vont où? Vers un hôtel? Vers la famille? Il y a évidemment des recherches d'emploi qui vont finir par se faire. Quel est le scénario pour eux là, qui s'en vient?
Il y a toutes sortes de situations. Il y en a un bon nombre, probablement un quart de ceux qui sont arrivés, qui continuent leur voyage vers d'autres points au Canada. Il n'y a pas de vol ne lisé à Toronto, alors il y en a un nombre qui s'en vont à Toronto, en Ontario, ou même à Edmonton. Alors ça, c'est à peu près un quart. Après ça, il y a des gens qui sont hébergés chez les familles d'accueil, souvent des étrangers qui l'ont rencontré sur les médias sociaux. Et il y avait un bon nombre de gens avec des pancartes à l'aéroport pour rencontrer pour la première fois des familles qui vont héberger chez eux. Puis c'est vraiment touchant de voir comment toute la population québécoise a réagi puis est prête à accueillir des étrangers. Après ça, il y a à peu près une centaine de personnes qui sont hébergées aux hôtels. Il y a 20 qui ont des animaux. Puis avec des animaux, ils sont dans un hôtel un peu à l'extérieur de la ville. Puis le reste sont dans un hôtel à Montréal, où ils sont appuyés par différents organismes, entre autres Hirondelle, le groupe pour soutien aux immigrants à Montréal, CSAI, qu'ils vont travailler avec pour les diriger vers l'hébergement plus à long terme qu'à l'hôtel, hein? En collaboration avec la ville de Montréal puis d'autres villes. Et ils vont les aider à les diriger vers les sources d'appui pour les vêtements, les meubles et les emplois, finalement.
Madame Smolinek, je sais qu'ils viennent tout juste d'arriver, que c'est un conflit qui se prolonge, qui s'étire, on voit pas la fin. Avez-vous l'impression que ces nouveaux arrivants vont vouloir s'établir? Je parle de ceux qui sont à Montréal, au Québec, là, vont vouloir s'établir ici. Ou pour eux, c'est une transition malheureusement nécessaire. Ils ont dû quitter pour toutes sortes de raisons. mais dans le fond de leur cœur, ils aimeraient mieux retourner dans leur pays.
Chacun a une histoire différente. Moi, je peux vous dire que j'ai l'impression que ceux qui ont pris la décision de venir au Canada sont prêts à s'éloigner. Il y en a parmi eux, ceux qui veulent retourner en Ukraine. Au point de départ, il faut souligner qu'il y a très, très peu de ces gens-là qui ont voulu quitter leur pays au point de départ. C'était fait par force, par nécessité. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes avec des enfants qui sont dans les pays autour de l'Ukraine parce qu'ils veulent pas trop s'éloigner du père, du mari qui est sur le front ou qui ne peut pas quitter l'Ukraine. Alors, ceux qui ont décidé de venir ici ont déjà pris la décision de s'éloigner un peu plus. Et j'ai l'impression qu'il y a un bon nombre parmi eux qui vont bâtir leur vie ici, qui vont rester ici.
Madame Smolinek, merci d'avoir pris ce temps-là. Bravo à vous, toute votre équipe, et bienvenue à ces nouveaux citoyens.
Merci beaucoup.
Au revoir. Cathy Smolinek est la présidente de la Fédération nationale ukrainienne du Canada.
Vous écoutez L'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Gros week-end pour les politiciens. On va parler de tout ça avec Jonathan tantôt, mais quand même... Nos chefs politiques étaient actifs sur les réseaux sociaux, Frédéric.
Oui, et même si François Legault publie du contenu majoritairement assez bien choisi sur TikTok, l'utilisation de ce réseau social-là, c'est pas donné à tous les politiciens qui le maîtrisent pas encore à 100%. La mise en scène est parfois un petit peu robotique ou tout simplement saisissante, comme dans ce cas-ci, le premier ministre qui était de passage ce week-end, évidemment, à Drummondville. Il est allé visiter un haut lieu de la gastronomie québécoise, c'est-à-dire la fromagerie Le Maire sur le bord de la Vin, qui est une bonne place à poutine. Il a commandé probablement ce qu'il y a de plus gros en matière de sacs de fromage en grains. Et il est allé d'une, d'une question existentielle pour ses abonnés.
Bon, là, j'étais à la fromagerie Le Maire à Drummondville. Je me suis acheté du fromage. Puis là, je ne sais pas comment on appelle ça. Fromage en grains, fromage en crotte, fromage quick-quick. Comment vous appelez ça, ce fromage-là, vous autres?
Il a demandé cette question à ses abonnés. Il leur a demandé de répondre dans les commentaires.
Qu'est-ce que les gens ont répondu?
Ben, le terme « fromage en crotte » arrive au sommet, Paul, des réponses sur...
Voilà un débat existentiel. Ça, puis l'origine de la poutine, là, c'est un peu...
Exactement, Drummond et Victo.
Ça fait même... partie de l'identité.
Mais il y a quand même l'Office québécois de la langue française qui recommande l'utilisation du terme « fromage en grain », la publication qui a été repartagée à de nombreuses reprises, notamment sur Twitter, où on s'est interrogé de la pertinence de ce type de contenu-là de la part d'un chef d'État. Il y a quand même Éric Duhaime qui a viré ça au ridicule. Plusieurs autres disent...
Normalement qu'il n'est pas équipé, lui, pour faire des commentaires.
Il ne donne pas sa place.
Non, il n'est pas pire.
Plusieurs autres personnes ont dit bon, que c'était un passage obligé pour plusieurs chefs d'État de s'humaniser un peu. C'est un peu comme Justin Trudeau qui est allé aussi dans la légèreté ce week-end. Oh. On a pu observer des publications romantiques sur Instagram.
C'est déguisé?
Non, pas cette fois-ci. Il en a profité pour souligner les 19 ans d'amour avec sa Sophie, dont 17 de mariage. Il est allé de ce message. J'ai su, de notre premier rendez-vous, que tu étais celle que je cherchais, Sophie. Du Kyberpass sur du lit au parc Kejim Kujik, chaque minute en ta compagnie est précieuse. Et évidemment, Sophie est allée d'un message de son côté
aussi. Tu répétais ça, là? Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a parlé d'un restaurant où ils vont manger souvent sur Duluth, qui est le Kyberpass, c'est un restaurant afghan. Et du restaurant afghan jusque dans les parcs nationaux, il voit des étoiles dans les yeux de Sophie. Et quand même,
wow.
Faut le faire. Et un mot en terminant brièvement sur le nouveau logo
donc,
du parti.
Donc, c'est plus depuis qu'on s'est vu à Casagrec.
Un petit peu de beurre à l'ail. Un mot en terminant
sur... Oui, on se bourre la bédaine.
Oui.
Sur le Parti libéral, ça aussi, ça fait jaser. À chaque fois qu'il y a un nouveau logo, que ce soit une entreprise, une équipe sportive, là, par contre, ça a été viré au ridicule là, avec les couleurs qui représentent un peu un graphique des intentions de vote. C'est assez particulier. Ouais. Vous irez voir le Twitter d'MC Gilles là-dessus.
Parfait. Et vous pensez le nombre d'épluchettes de blé d'Inde que les politiciens vont faire cet été, les politiciennes, le nombre de hot dogs et autres relais gastronomiques ils vont se taper, hein?
On n'a pas fini d'en voir.
Eh hey boy! Hey, c'est-tu bon? C'est le meilleur de la région, et cette le plein air.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.